Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains,
l'émission de Daniel Philippe Aquin.
Du cœur au boulot, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour à vous tous, les enfants d'Europe 1, ceux d'hier, d'aujourd'hui, ceux qui vont le devenir. Bienvenue à toutes celles et tous ceux, vos courriers et témoignages le prouvent, qui ont en eux quelque chose d'Europe 1, tant il est vrai que dans notre station, le passé, le présent et l'avenir paraissent intimement imbriqués, fidèlement unis. Chacune de ces émissions est donc toujours un moment à part. Celui-ci, celle-ci, est sans doute plus particulière encore, puisque nous allons faire une découverte, que dis-je, des découvertes du nom de cette émission, à laquelle mon invité d'aujourd'hui a associé son nom, son style, qu'il a marqué de son insatiable curiosité et de son exigeante énergie. Je remercie de sa présence celui qui est aujourd'hui le président d'Europe 1, monsieur Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour président.
Bonjour, n'exagérez pas.
Hein. Bonjour Jean-Pierre. Nous allons évoquer quelques grands moments de cette émission en votre compagnie, parmi eux celui-ci. Fermez les yeux, vous êtes en plongée, à peine sorti du goulet de Brest, au poste de commandement du redoutable, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la marine française.
Nous sommes toujours dans le poste central d'observation et de navigation, et dans un secteur, c'est vous, monsieur Genier, que l'on trouve, accompagné d'une ou deux personnes. Qu'est-ce que vous faites nuit et jour à cette place du sous-marin ?
Nuit et jour, on écoute tous les bâtiments, toute la situation aux environs du sous-marin, situation surface, situation des autres bâtiments qui nous entourent. Pour la sécurité du bateau.
Contrairement à ce qu'on raconte, la mer n'est pas silencieuse. C'est tous les bruits de la mer, les différents bruits.
On parle du monde du silence. En fait, on a des bruits d'animaux, on a des bruits de bâtiments, on a des bruits de toutes sortes, des bruits sismiques.
Et votre métier, vous, c'est d'analyser, de repérer ces bruits et de les classer. Il y a une école qui forme les oreilles en France.
Oui, ça se trouve à Toulon. On est une vingtaine à passer notre temps à écouter des sonothèques qui nous permettent après d'identifier les bâtiments qu'on rencontre.
Alors, monsieur Andrieux.
Oui, je suis le chef du service détection et armes sous-marines du redoutable. Il faut savoir que dans l'eau, le son se propage 5 fois plus vite que dans l'air et les portées sont considérables. Elles vous atteignent 100, voire plusieurs centaines de kilomètres.
Par exemple, on va écouter cela ensemble.
Là, vous êtes en présence d'un bâtiment de commerce comme on en rencontre le plus souvent en mer. Vous entendez le bruit de son hélice, qui est le bruit qu'on entend mieux, qu'on reconnaît le plus facilement, qui porte le plus loin. Et plus le bateau se rapproche, plus on discerne sa propulsion, son diesel en général.
Et là, il est loin de nous.
Là, il est assez loin de nous.
On va faire un autre exemple. On connaît le bruit des baleines.
Un peu de démonstration, c'est pas, vous n'entendez pas en direct.
Ce serait trop beau d'entendre en direct tous ces bruits successivement. Hein.
Non, on peut rester plusieurs heures, voire plusieurs jours sans avoir un bâtiment.
Et le troisième exemple, c'est le bruit de lancement d'une torpille.
Le bruit de lancement d'une torpille. On entend le bruit de départ de la torpille.
Le sifflement
traçant de sa route.
Oui.
Et son explosion.
Est-ce que vous arrivez à déterminer les bruits aussi d'un sous-marin? Est-ce qu'un sous-marin fait du bruit, monsieur Andrieux?
Il en fait, mais disons, on essaye à l'heure actuelle de les rendre le plus discret possible.
Et vous pourriez déterminer aussi la nationalité du bateau,
oui,
du sous-marin?
Oui.
Et alors ça, vous allez vite dire au commandant, c'est un sous-marin de telle ou telle nationalité?
Oui.
Quel est le bruit qui vous dérange, vous?
Le bruit qui me dérange? Le réveil le matin.
C'est plus fort que vous, Jean-Pierre, où que vous soyez, vous allez directement voir l'ingénieur du son?
À peu près, surtout là, nous étions à moins 250 mètres sous la mer. Vous savez, j'avais une envie depuis très longtemps d'aller passer quelques jours à bord d'un sous-marin, et quand on m'a donné l'autorisation de le faire, j'ai commencé par dire adieu à tous ceux que je connaissais, parce que je suis claustrophobe.
C'est pas vraiment l'endroit, effectivement. Pour un claustrophobe.
Et alors je me disais, comment je vais résister à cet enfermement, à cette absence de lumière, à moins 150, moins 200 mètres. Et quand nous avons commencé la descente dans le centre de commandement avec le Pacha, nous étions trois, j'étais avec Alexandre Lichand et Sidney Bitoun, nous avons commencé par trembler parce qu'on entendait des craquements. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et le commandant nous a dit, non, c'est la preuve que la coque est vivante. C'est s'il n'y avait pas de bruit que vous pourriez commencer à être inquiet. Donc il y a eu d'abord les adieux à toute l'équipe, à tous les gens autour de moi.
Et ça puis, devait durer combien de temps, cette plongée?
Nous, trois jours, deux nuits et une journée. Ce qui était extraordinaire, et j'en ai un souvenir très fort, parce que je pense que c'est un des moments les plus significatifs de ma vie professionnelle. J'ai connu des conflits, des guerres, des guerres civiles. Et là, c'était quelque chose de tout à fait particulier. C'est vrai qu'il y a des bruits, vous avez entendu les élèves de l'école de Brest, mais c'est le silence, parce que l'efficacité d'un sous-marin nucléaire, c'est justement le silence et de détecter le moindre bruit, le moindre son des sous-marins adverses. Et quelquefois, le sous-marin tourne, ou a le sentiment qu'il tourne autour d'un autre sous-marin allié ou rival. J'ai une admiration sans borne pour les 130 sous-mariniers qui partent pour des campagnes de 60 à 90 jours sans aucun contact avec la Terre et sans jamais savoir où ils sont. Et ce qui était intéressant, c'était la visite à moins 150, moins 200 mètres sous l'eau, du sous-marin lui-même, le redoutable. Il y avait le terrible, le redoutable, et il y a toute une gamme de nouveaux sous-marins, ouais, le foudroyant, etc. Et quand on visitait avec les officiers le sous-marin dans la salle des missiles, j'ai été surpris, parce qu'il y en a qui faisaient du vélo, il y en a qui faisaient de l'haltérophilie, c'était leur salle de gymnastique, l'endroit où il y avait des fusées et des missiles qui pourraient viser un ennemi potentiel. Et alors, il y avait les discussions sur la dissuasion avec le commandant. C'était des dîners, des déjeuners passionnants. Et on le regardait, là, tous les trois. Et chaque fois, il faisait des petits signes. Je me demandais, mais à qui il signe? Et il fait ses signes. Quand on se retournait à bord de ce sous-marin redoutable, à moins de 100 mètres sous la mer, il y avait un aquarium et un petit poisson rouge. Et le pacha faisait des signes à son poisson rouge. Quand on a quitté le sous-marin, le commandant nous a dit, bon, regardez par le périscope, vous allez voir l'hélicoptère de l'aéronavale qui va venir vous chercher. Alors pendant longtemps, regardez, on ne voyait rien. Puis brusquement, l'hélicoptère est arrivé, s'est placé au-dessus du sous-marin. Le sous-marin est remonté à la surface et on a tiré à pile ou face qui allait partir le premier. Moi, je suis parti le dernier. Et il y a une drôle d'impression parce qu'on était élitreillé.
L'élitreillage,
oui. Oui, et alors on était tiré par le câble qui était placé par les sous-mariniers. Puis on montait, le temps de regarder les pales en se disant « Ouh là là, je vais être décapité par les pales ». Et je regardais au-dessous, il n'y avait déjà plus le sous-marin qui était redescendu sous la mer. Il ne restait plus que la surface de la mer.
Je voudrais qu'on revienne sur les conditions dans lesquelles l'émission est née. Est-ce qu'on peut dire que vous veniez de traverser le désert?
Une première traversée du désert. Non, en fait, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. C'est ce qui m'a formé, m'a bien formé, m'a montré que j'étais capable d'en sortir, de résister à la soif, et puis de voir la plupart des difficultés de la vie avec une certaine indifférence ou une certaine distance.
Philosophie.
Oui. Et là, bon, j'ai recommencé à travailler avec une période de quelques mois, mettons 18 mois de chômage. Avec Nicolas Vril, j'avais fait le livre qui s'appelle « Taisez-vous, El Kabach ». Et puis Jacques Abergel, différentes personnes m'ont demandé de travailler, m'ont encouragé à reprendre des activités. Mais à l'époque, il était interdit pour moi de faire de la politique, de citer un politique. Alors donc, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination. Et c'est avec Philippe Gildas et Jean-Claude Dacier, ensemble, que nous avons trouvé le terme de découverte qui correspondait tellement à ce que j'aime faire ou ce que je suis, la curiosité, la découverte.
Et en tous les cas, vous ne vous en doutiez pas forcément à ce moment-là, mais certains ou certaines vous attendaient presque à l'affût pour travailler avec vous. Elle est aujourd'hui présentatrice du journal 20h de France 2, Béatrice Schoenberg.
Je travaillais depuis quelques mois à Europe 1 et j'avais entendu dire qu'il allait arriver. Et je me disais, c'est incroyable, c'est la chance de ma vie. Et j'ai commencé à faire tous les bureaux, des directeurs délégués, des directeurs adjoints, en disant, je veux travailler avec ce type-là. Et quand Jean-Pierre est arrivé, alors d'abord, il venait pour pas du tout parler de politique, pas faire de l'actualité au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il n'avait pas accès à la rédaction.
Le bureau était d'ailleurs excentré.
Le bureau était excentré, on n'avait pas le droit aux dépêches, qui était quelque chose qui a beaucoup frappé Jean-Pierre, je pense même l'a touché, parce que de temps en temps, il prenait les dépêches, c'était des dépêches papier encore à l'époque, et non pas sur ordinateur comme on les a maintenant, et il les prenait, il les humait, en disant, ben voilà, ça c'est l'information, mais ça je l'ai pas. Et donc il a imaginé un concept qui s'appelait découverte, qui était donc tout faire sur la curiosité du journaliste qu'il est et l'info, mais sans passer par la politique et la rédaction. Et donc moi, je l'ai rencontré au café d'en face et je lui ai dit, voilà, je vais vous communiquer mon envie de travailler avec moi. Je suis une petite journaliste, je suis débutante, mais je sais que je vais faire mes classes avec vous.
Quel souvenir, par exemple ?
Alors Jean-Pierre, par exemple, disant, mais je vais inviter Raymond Barre. Alors non, pas pour parler de politique, pour parler de Raymond Barre. Qu'est-ce qu'aurait pu être Raymond Barre s'il n'avait pas fait de politique ? Et la réponse était extrêmement surprenante.
C'était quoi ?
Par exemple, Raymond Barre a dit, j'aurais voulu être couturière.
Ah.
Couturière, il avait une passion pour la couture, il y avait
de
des origines lyonnaises.
Oui,
exactement. Et ensuite, il y a toutes sortes de rendez-vous qu'on a fait avec ce flair qu'a Jean-Pierre de découvrir les gens de demain. Parce que ça, c'était... Sa base, c'était arrêtons de faire ce que font les autres. Arrêtons d'être des suiveurs. Arrêtons. L'information, c'est l'information de demain.
Il y a eu des grandes émissions à l'extérieur.
Alors, on en faisait dès que l'on pouvait, parce que Jean-Pierre adore voyager et c'est un journaliste de terrain. Il est toujours
en train de
flairer. Non, il ne tient pas en place. D'ailleurs, je me souviens qu'il était dans ce studio, qui a un petit peu changé le studio, mais pas Jean-Pierre, avec l'écouteur. Il y a des écouteurs quand on est en radio. Un écouteur sur une oreille, l'autre n'importe comment, le pied dans la poubelle, parce que c'est ça, Jean-Pierre. Il était toujours très, et très agité autour du micro, arrachant les papiers des gens quand ils étaient en train de faire un papier. Bon, c'est vraiment un homme de passion.
Donc, oui, je disais les émissions à l'extérieur.
Le commandant Cousteau, par exemple, qui était une star, mais incroyable aux États-Unis. Une star mondiale, c'est vrai, mais aux États-Unis, incroyable. Et il avait construit ce bateau éolienne et il avait décidé de faire son entrée dans New York. Et nous avons eu la chance, parce que j'étais là sur le bateau aussi, de rejoindre Cousteau au large de New York. On n'a pas fait toute la traversée, Dieu soit loué, de l'Atlantique. On est monté au large de New York et on a fait l'entrée de ce bateau avec Cousteau qui était attendu réellement comme l'une des plus grandes stars américaines.
Et le plus excité, c'était peut-être Jean-Pierre, non ?
Les deux. les deux, avec cette entrée, comme les premiers arrivants à New York, il y avait des bateaux-pompes partout, mais c'était exceptionnel.
Pas de politique, ça vous a manqué ou pas ?
Moi, pas du tout. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, je suis pas un fan de politique. Vous savez, quand je commence ma journée, je prends les journaux avec Anne-Marie Moreau le matin à 6h45, 7h, je commence par la vie culturelle, par les sports, et après je viens à la politique. Mais je suis touché par ce que dit Béatrice Schoenberg. C'est vrai qu'elle a été pendant 3 ans une collaboratrice extraordinaire de vitalité, de dynamisme. Si j'avais pas le moral, elle me le donnait. Et si je n'avais pas l'idée d'un voyage, elle me suggérait une idée. Et à l'époque, il faut savoir qu'on était fauchés. L'émission n'avait pas de sous, donc donc il fallait négocier avec tel ou tel pour avoir l'aide d'X ou Y pour pouvoir faire un voyage aux États-Unis, aller faire par exemple un grand reportage ou de grandes émissions de radio sur le cinéma à Los Angeles, alors qu'on n'avait pas un sou.
Ne pas faire ce que font les autres, ce que disait Béatrice, c'est ça.
Vous avez remarqué que je n'ai pas changé. Je n'aime pas suivre la meute de toutes les façons. Mais il faut dire que quand je suis arrivé, j'étais surpris parce que la mode était de me fuir. Et je passais rapidement la rédaction. Quelquefois, je la traversais même pas parce qu'il y avait quelques tronches qui me faisaient savoir qu'il fallait mieux ne pas m'attarder. Et puis, de voir qu'une jeune femme journaliste qui avait l'air d'avoir du talent, je ne la connaissais pas, et qui venait avec insistance me dire « je veux travailler avec vous », m'avait surpris. Et à l'époque, on était entre Yvan Levaille, qui faisait une interview et une revue de presse, et Michel Drucker, qui faisait une émission de 2-3 heures de variété. Donc, je ne pouvais pas faire la politique, je ne pouvais pas faire non plus telle ou telle vedette, de divertissement. Et je me disais « je vais ramasser dans les poubelles de l'actualité ». Et finalement, c'est dans les poubelles qu'on trouve les plus belles pépites. Et à partir de là, on a découvert des talents, des chanteurs. Par exemple, c'est Daniel Balavoine qui a fait presque une de ses dernières émissions avec nous ici sur Europe. On a lancé des tas de débats. Jean-Marie Tchibaou, je ne sais pas si ça dit quelque chose aujourd'hui, le chef des Kanaks, et Jacques Lafleur qui ne se parlaient pas. La violence commençait à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et c'est nous qui avions réussi à les convaincre de venir se parler. L'un était arrivé avec 50 Kanaks, l'autre avec ses 50 caldoches. Je les ai forcés à se serrer la main. Ils se sont serrés la main. Ils ont commencé à discuter, puis peu à peu.
Et ils ont fait leurs accords de Matignon après.
Les accords de Matignon longtemps après. Et puis, ils m'ont raconté tous les deux, séparément, leur version. Je ne sais pas si je peux leur raconter. Mais ils me disaient, un jour, on s'est retrouvés, Tchibaou et Jacques Lafleur, tous les deux, nous nous sommes retrouvés dans les toilettes. Et on faisait pipi ensemble, côte à côte. Et on avait, chacun de nous avait trois gardes du corps derrière nous. Et nous nous sommes dit, jusqu'à quand ça va durer? Même là, on soit accompagné comme ça. Et ça a contribué, ce détail, à les faire évoluer vers la conciliation et la paix. Mais je n'avais pas le droit de faire de la politique.
On se retrouve dans quelques instants autour des Enfants d'Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach. Les Enfants d'Europe 1 avec comme invité Jean-Pierre Elkabbach. Béatrice Schoenberg parlait du commandant Cousteau tout à l'heure et de votre arrivée à New York. Donnez-nous plus de détails sur ces derniers miles et sur ce personnage.
Je commencerai avant d'arriver à New York. C'est toute une aventure. D'abord, Cousteau avait l'intention de traverser l'Atlantique avec un rafio qui s'appelait le Moulin à Vent. Et il était parti et il m'avait demandé si je voulais, puisqu'il avait un appareil qui lui permettait de téléphoner tous les jours, m'appeler régulièrement vers 4 heures dans l'émission Découverte l'après-midi pour me dire où il était. J'étais ravi. Et donc il y a une sorte de feuilleton tous les jours. Cousteau appelait, je suis ici, tiens regardez, je vois des baleines, des cachalots, des requins, etc., etc., j'en suis là. Et puis un après-midi, il n'a pas appelé. Un deuxième après-midi non plus, on a commencé à s'inquiéter. Et puis c'est le lendemain, vers le journal de 13h, on a appris que le bateau, tout près des côtes américaines, atlantiques, avait chaviré. Et Cousteau, qui était, je ne sais pas sur quelle partie du bateau, ou dans un bateau de secours, m'a dit « Je jure que dans les 18 mois, j'aurai un autre bateau et que j'arriverai aux États-Unis ». On a suivi l'expérience, il a ramassé des fonds à Paris, tant bien que mal, en frappant dans tous les ministères et chez des privés, et il a construit ce qu'il s'est appelé l'Alcyone, et c'est l'Alcyone qui a traversé l'Atlantique. Et dans les derniers temps, il m'a dit « Maintenant, je vais arriver, rejoignez-moi ». Et c'est avec Béatrice Schoenberg que nous avons remonté les différents ponts de New York, nous sommes remontés jusqu'à l'arrivée avec effectivement les pompes à eau, les hélicoptères autour de nous, les foules délirantes pour l'arrivée du commandant Cousteau. Mais pour moi, Cousteau, c'est pas simplement le bonhomme avec le petit bonnet rouge, c'est un commandant autoritaire, c'est
sacré
quelqu'un
caractère, oui.
D'un très mauvais caractère dont on voit peu à peu avec l'histoire les défauts, qui a fait quelques torts peut-être à ses fils, à certains membres de son équipage, et a des problèmes aujourd'hui dans la succession et dans la suite de Cousteau. C'était un grand bonhomme, et peut-être que chaque fois qu'il y a quelqu'un de grand, il s'accompagne de dégâts autour de lui.
Alors on va justement juger de son caractère, parce que vous étiez supposé ne pas parler ou peu de politique, et avec le commandant Cousteau, on pouvait penser qu'il n'en serait pas question. Et puis tout à coup, lors d'une émission, il y a ce moment tout à fait surprenant, où en l'espace de quelques minutes, on en apprend finalement beaucoup plus sur ce personnage hors du commun.
Commandant Cousteau, vous prépariez aussi un film sur Cuba.
Oui.
Vous avez rencontré Castro, oui, oui. Fidel Castro. Oui. Il a libéré, on dit sur votre demande, des prisonniers
ça,
politiques.
Je vous demande de ne pas parler de ça.
Non, mais le secret a été rompu malgré vous.
Bon, enfin, alors, peut-être, mais oui, je n'ai pas de commentaire.
Il y a 27 prisonniers politiques qui ont été libérés.
Non, beaucoup plus que ça.
Combien ?
C'est 50.
50. Parce que vous lui avez demandé ?
Oui. Mais ça je ne veux pas en tirer glorieux.
Non, mais vous n'en tirez pas glorieux. On l'a dit sans vous, malgré vous. Mais commentez-nous, parce que beaucoup ont été choqués finalement.
Non, parlons d'autre chose, s'il vous plaît.
Mais simplement, répondez-moi sur le principe. Je ne dis pas la morale, parce que peut-être. Pour faire plaisir à des amis, non. Il ouvre ses prisons.
Non. Non, c'est pas ça. Non.
Et qu'est-ce que vous avez dit pour lui convaincre ?
Mais je vous demande de ne pas en parler. J'ai promis de ne pas en parler, j'en parlerai pas.
C'est-à-dire que si j'en parle pas, il y en aura peut-être d'autres qui sortiront.
Non.
Même pas.
Non.
Bon. Mais on peut être en même temps l'ami de Castro et l'ami de Reagan ?
On devrait. On devrait, il n'y a vraiment aucune raison. D'ailleurs, j'ai quitté Cuba pour aller à la soirée où on a reçu le prince Charles et les derniers à la Maison Blanche. J'étais à la table de Reagan et je lui ai dit que je venais de Cuba et j'y retournais le lendemain. Et il m'a dit, ah oui, Cuba ? Alors, je dis oui, et je pense que vous êtes très mal informé sur la question. Il m'a dit, mais revenez me voir avec les documents et venez m'en parler. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Comme toujours, c'est le manque de dialogue qui sépare les deux pays. Ils sont voisins, ils sont obligés d'être voisins. Vous connaissez le proverbe, mieux vaut un voisin qu'un cousin. Alors, le cousin, il est en Russie. Mais le voisin, il est en Floride, il est juste à côté.
C'est-à-dire, plus il se rapprochera du voisin, plus il s'éloignera du cousin.
Alors, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis exigent qu'ils changent de régime politique. Il n'y a aucune raison pour qu'il se sépare de ses liens économiques avec la Russie, mais il devrait réchauffer les liens avec les États-Unis qui sont son voisin.
Mais par exemple,
c'est faisable.
À Fidel Castro, vous avez dit un peu qu'il devrait comprendre ou voir autrement l'Amérique de Reagan.
Mais c'est son désir. C'est les Américains qui ne veulent pas. Les Américains considèrent que tout ce qui est communiste, c'est le diable. Hein? Donc, pas touche. Eh bien, c'est un peu enfantin, ça. C'est une position naïve. Il faudrait quand même qu'ils rentrent en rapport avec leurs voisins, qui a besoin d'eux. Car Cuba a besoin des États-Unis.
Nous nous retrouverons bientôt, il va être 20h. Vous allez regarder le match de foot, vous ?
Ah, moi, ça ne m'intéresse pas du tout.
Enfin, il y a des millions de gens.
Oui, je sais.
Encore une fois, anticonformiste, Cousteau.
Non.
C'était un homme que vous définiriez comment, dire Cousteau ? C'était pas quand même simplement l'océanographe ?
Non, mais c'était d'abord.
Vous avez eu la chance d'aller au-delà, de sentir un petit peu son,
mais il avait
son
ses
caractère
secrets.
Fort.
Oui, il avait ses secrets, ses limites, dans le temps, l'ouverture à l'autre. Mais c'est un personnage, pour moi, c'est une forme d'audace, de courage, de résistance, de lutte aussi contre les modes, et avec une telle certitude qu'il avait raison, que parfois il a eu raison. Il fait partie de ceux qui peuvent être des modèles en pensant que les modèles ne sont pas forcément des saints.
Il y a des hommes, des femmes que vous avez pu inviter, recevoir lors de l'émission Découverte, et je ne sais pas avec qui il y avait un peu plus le fit que...
Ah, mais il y avait le fit avec Cousteau, on se taquinait beaucoup, non mais vraiment, parce qu'en même temps il aimait rire, il avait un rire assez... diabolique peut-être, et puis il y avait une bonne relation. J'ai interrogé tellement de gens que je me souviens pas, mais en dehors de Découverte, les matins ou à la télévision, Gorbatchev par exemple, Nelson Mandela à plusieurs reprises, mais lui c'est un idéologue malgré tout ouvert, humain, froid, et auquel je suis reconnaissant d'avoir montré qu'on pouvait être tolérant avec les pires intolérants. Après avoir passé 27 ans dans la solitude d'une prison, il a su retrouver la liberté et recommander la réconciliation pacifique de tout son peuple qui avait tellement souffert de l'apartheid.
On se retrouve dans quelques instants, le temps de laisser passer l'information et le journal de 11h. Les découvertes des enfants d'Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach. Découverte, c'est une émission où se mélangeaient, où se rencontraient tous les gens. Et puis vous avez vite commencé à monter des coups parce que vous êtes un homme de coups. L'arrivée à New York avec Cousteau en est éteint. L'interview de Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran, héritier du trône impérial, en fut une autre. Extrait.
Vous voulez vous souvenir de la fin du règne ou vous voulez oublier complètement ces années-là ? La fin, le départ, l'exil, Panama, le Mexique, les États-Unis, l'hôpital, les manifestations des Iraniens, des États-Unis ou des Américains à cause des otages américains. Vous vous rappelez de tout ça ?
Dans mon rôle, la chose la plus importante, c'est de connaître l'histoire. Et ceci, bien sûr, fait partie de l'histoire. Donc il faut bien que je m'en souvienne exactement et d'en tirer les meilleures leçons, si je pourrais le dire. Et dans tout cet épisode, évidemment, il y avait tout ce que vous venez de nommer et chaque scène, chaque, disons, image reste très claire dans mon esprit.
Au-delà des lieux, c'était la première fois où vous voyez votre père sans uniforme?
La première fois plutôt quand je le voyais en tant que mon père tel qu'il voulait l'être vraiment. Et la manière dont il réagissait et enfin ses réflexions, sa réaction et tout ce qu'il... entendait, enfin ça déchirait son cœur en voyant tout ce qui s'est passé dans le pays, en apprenant la mort de beaucoup de personnes, de tout ce qui se passait, des exécutions. Et
est-ce qu'il se reprochait quelque chose? Est-ce qu'il disait je n'aurais pas dû faire ceci ou cela, j'aurais dû agir autrement? Vous savez, le genre de critiques qui ont été faites contre le régime de votre père, à savoir le non-respect des droits de l'homme, les arrestations, les détentions arbitraires, les méthodes policières, la torture, la savate, tout ce dont on a si souvent parlé en Occident. Est-ce qu'il s'est reproché, lui, quelque chose?
Vous savez, quand on est sur le vif, il faut prendre des décisions, il faut réagir sur les médias, il y a toutes les tensions, les pressions qui existent, et je pense que tout être humain, dans des circonstances pareilles, peut facilement commettre des erreurs. Et quand on regarde les choses d'une manière rétrospective, on retrouve beaucoup de regrets, de remords. Ou s'il était vivant, je suis sûr qu'il aurait pu vous répondre à beaucoup de questions et à vous dire très sincèrement qu'est-ce qu'il avait fait, et qu'est-ce qui était pas correct, qu'est-ce qui était ce qu'il fallait faire. Mais mon père, avant tout, adorait son pays. Il a essayé de servir son pays de la meilleure façon, et pour lui, l'Iran était la seule chose à laquelle il pensait. Et pour cela, je pense que les Iraniens, une fois que l'histoire jugera le passé, arriveront à tirer les vraies conclusions.
Valéry Giscard d'Estaing disait l'autre jour à la télévision française qu'il avait voulu expulser de France Khomeini et que votre père, le Shah d'Iran, a plutôt refusé. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. C'était vraiment pas une question de refus ou d'accepter. C'était vraiment une question de principe à ce moment-là. Et dans toute cette période, je pense que toutes les décisions qui ont été prises par mon père étaient basées sur des raisons de principe et non pas autre chose.
C'était une erreur?
L'histoire en jugera.
Interview réalisée pour des raisons de sécurité, c'est l'expression que vous avez employée alors, quelque part à New York.
Oui, dans un lieu secret, après toutes sortes de péripéties, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, chaque tête de la famille Pahlavi était mise à prix. Et donc, il était accompagné d'un certain nombre de protecteurs.
Mais on peut le dire maintenant armés. Que c'était, non ?
Non. Non, et en plus, quand après, encore une fois, toutes sortes de pérégrinations, nous sommes retrouvés dans ce lieu, il était naturellement adossé à un mur, parce qu'il y avait toujours le risque d'un tir qui partirait de tel endroit à tel endroit, parce qu'il était, encore une fois, en permanence menacé. Et il m'avait accordé cette conversation, qui a eu lieu, encore une fois, au plein de la révolution de l'ayatollah Khomeini qui dominait le pays, l'Iran. Et même si aujourd'hui Reza Pahlavi incarne une des faces, une des possibilités de la résistance de l'Iran démocratique, à l'époque il avait accepté de me recevoir parce qu'il avait appris que j'avais rencontré son père. Et comment, si en deux mots je peux vous raconter?
Oui, allez-y.
J'ai jamais rencontré le Shah d'Iran dans les palais de Téhéran. Jamais lors des longues et coûteuses festivités de Persépolis où beaucoup de Français se pressaient de se faire inviter, de se montrer.
De faire voir.
Oui, à l'époque, j'oubliais pas la SAVAK, la police politique, j'oubliais pas comment on prenait des libertés avec les droits.
Ah, c'est pas bon être un opposant, humains. Non, c'est
non,
sûr.
Non, mais aujourd'hui non plus. Je savais pas qu'il allait y avoir pire encore que le Shah mais l'ayatollah Khomeini et son régime depuis, même si aujourd'hui il évolue et qu'à l'intérieur il y a grâce aux femmes une certaine forme d'évolution, et les femmes, la littérature, etc., et des jeunes, même derrière les femmes, derrière le long voile. Le chat allait proposer ses mémoires chez un éditeur qui s'appelait Albert Michel. Et j'avais réussi à dire à Albin Michel, je veux le faire pour une émission de cartes sur table avec Alain Duhamel. Et le chat d'Iran avait accepté de me recevoir. Et je suis donc parti en Concorde un matin. Je suis arrivé vers 10h, 11h à l'hôpital où était le chat d'Iran. C'était l'époque où il était très malade. Et je peux dire que j'ai eu le triste privilège de voir, moi, le chat d'Iran en pyjama dans son lit d'hôpital, au 18e étage de cet hôpital américain, avec en bas une foule énorme de jeunes, de gens, d'opposants qui protestaient contre sa présence aux États-Unis et à New York. Et j'étais allé lui raconter ce que je voulais. On a passé, je dis, de 11h à 5-6h du soir ensemble, de nombreuses heures où il m'a raconté beaucoup sur la Révolution, sur en même temps ce qu'il avait voulu faire, les rapports avec la France, etc. Ce qu'il attendait des États-Unis, il n'aimait pas beaucoup le régime de Carter, qu'il a complètement abandonné, où les intérêts américains ont souffert. Et puis, toutes les demi-heures, il tirait vers lui le bras du poste de télévision qui était là. Il ouvrait la télévision et on entendait le bruit des manifestants qui étaient au pied de l'hôpital et qui réclamaient sa mort, son départ des États-Unis. Et il avait promis de faire une émission de cartes sur table. Il m'a dit, vous viendrez, je mettrai même une veste sur mon pyjama, mais je le ferai. Et vous rentrerez les appareils les uns après les autres parce que les Américains l'interdiront. Nous n'avons pas pu le faire. Entre-temps, les Américains l'ont chassé et il est mort.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé du père dans le fils ?
Une énergie. Le père, je ne connaissais pas en dehors de ces quelques heures. Mais le fils m'avait à l'époque impressionné. C'était un brillant jeune homme, orphelin, décidé à porter le flambeau de la révolution démocratique, comme il disait. Et puis, il avait à peine 20 ans, il avait de l'énergie et il se promettait de lutter jusqu'au changement de régime. Et j'ai bien peur qu'il attende longtemps.
Autre très grand moment, autre découverte, autre document, votre rencontre avec Kurt Waldheim, ex-secrétaire général des Nations Unies, au lendemain de son accession à la présidence de la République autrichienne, et alors que pèse sur lui, Jean-Pierre, de terribles soupçons. Nous allons écouter un extrait de cette émission. Comment est-ce qu'il vous est apparu au moment de l'interview, ou juste
embarrassé,
avant?
Embarrassé. Il faut dire que ce personnage éminent, élégant, immense, de taille, avec un nez pointu, avec un regard dédaigneux sur les interlocuteurs, qui avait eu des responsabilités importantes aux Nations Unies, qui était accueilli partout, d'un seul coup, il voyait revenir son passé de nazi qu'il croyait avoir oublié.
On écoute cet extrait.
Comment vous réagissez, Kurt Waldheim, quand on dit qu'à la tête de l'Autriche, il y a un ancien officier nazi ?
Il ne s'agit pas d'un ancien officier nazi. Je crois que c'est une faute qui est faite souvent de considérer l'armée allemande comme armée nazie. Il y avait des milliers de soldats, des centaines de milliers de soldats allemands ou autrichiens qui n'étaient pas des nazis. L'armée n'était pas l'armée nazie, c'est quelque chose de différent.
Est-ce que ce n'est pas plus grand dans certains cas de reconnaître, non pas que vous avez été un criminel de guerre, M. Waldheim, mais que vous avez appris des choses, que vous saviez des choses. Dans certains cas, est-ce qu'il ne peut pas y avoir... Est-ce que vous ne croyez pas que cette sorte de reconnaissance grandit encore ?
Écoutez, c'était la guerre, 43 ans. Moi, j'étais un jeune homme de 20 ans, 22 ans. La guerre est la guerre. Vous pensez toujours que c'était une excursion et on a commis des crimes de guerre. C'était la guerre. C'était une confrontation militaire très cruelle. Tout cela, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez ?
C'était votre guerre aussi ? Vous dites que c'était la guerre pour l'armée allemande. Mais est-ce que c'était la guerre que vous faisiez avec conviction aux côtés ?
Certainement pas. J'étais forcé dans l'armée allemande. On ne pouvait pas choisir. L'alternative aurait été l'exécution. Ce n'était pas notre guerre. Il faut reconnaître ce fait. C'était le sort de centaines de milliers de soldats à cette époque.
Et vous avez
été... Vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas cette situation 43 ans après. Je comprends d'autre part que les jeunes gens qui n'ont pas vécu à cette époque, qui étaient nés après la guerre...
Mais par exemple, quand vous parlez des jeunes gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire, si vous me permettez, je montre des photos qui sont sorties dans la presse française. Qu'est-ce qu'on peut leur dire quand on vous voit avec des généraux qui étaient des généraux de l'armée allemande, où là, par exemple, il y a plusieurs documents, plusieurs photos avec des officiers allemands en juillet 1943 à Athènes avec le général Felmy qui a été condamné à Nuremberg. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes ?
Moi, j'étais interprète à cette époque. Et pas plus. Je n'ai pas donné des ordres quelconques. C'était une position assez inférieure, sans responsabilité pour les événements dans cette région du monde.
Un interprète ne sait pas.
Écoutez, si vous savez quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable pour cette confrontation militaire. Naturellement, je savais ce que j'avais
entendu et traduit.
Mais je suis un peu surpris que vous avez des hésitations d'accepter mon point de vue.
Et quand vous entendez dire, M. Waldheim, que votre rôle, c'était aussi de contrôler les interrogatoires des prisonniers...
Non, ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Non, c'est un mensonge. C'est incroyable, les mensonges qui sont distribués. Ce n'est pas vrai. Je n'avais rien à faire avec interrogation. Tout ce que j'ai fait, c'était de rassembler des informations que nous avons reçues. Et j'ai envoyé cela au département d'opération, c'était tout. Tout à fait normal, le travail normal d'un officier d'ordonnance. Si vous voyez ces jeunes hommes, n'est-ce pas, de 22 ans à cette époque, qu'est-ce que vous voulez que je n'ai pas le pouvoir de donner des ordres.
Mais M. Waldheim, vous êtes fier de la période 42-44 en ce qui vous concerne ?
Non, certainement pas. Pas du tout. Pourquoi j'ai fait le service militaire pour un régime que j'ai opposé, que toute ma famille a haï. Alors, il n'y avait pas de raison d'être heureux de cette période. Et j'étais malheureux de cette période. Et j'étais heureux lorsque la guerre était finie et lorsque je pouvais commencer de travailler pour la paix internationale, pour une compréhension meilleure des peuples du monde lorsque j'ai été nommé secrétaire général des Nations Unies.
On ne va pas se payer de mots, mais un moment comme celui-ci, est-ce que l'intervieweur a conscience qu'il s'agit d'un moment presque d'histoire ?
Je m'en rends compte maintenant parce que j'écoute ces témoignages pour la première fois. C'est vrai que je suis surpris, non pas de l'avoir fait, mais surpris que Waldheim ait accepté de me recevoir. Il avait été secrétaire général des Nations Unies, président de l'Autriche. Je me demande comment il ne m'avait pas mis dehors. Il disait je sais, mais je n'ai aucune culpabilité, aucune responsabilité. Mais c'était à l'époque le drame de nombreux Autrichiens. Ce que je veux dire en l'écoutant, c'est que tout est possible, et aujourd'hui encore. On peut interroger, on peut questionner les personnes les plus simples, les personnages aux plus hautes responsabilités et tout leur dire. Et c'est vrai que là où je suis, j'encouragerais tout journaliste d'Europe qui irait en quête de tels documents dont on découvre plus tard qu'ils peuvent servir pour l'histoire. Mais c'est vrai que j'étais assez culotté pour aller lui dire « Bonjour, monsieur le criminel de guerre ». Mais je pense, moi, parce qu'il y a eu souvent des débats, qu'il faut donner la parole autant qu'on peut au pire, je ne dis pas criminel, mais au pire dictateur, pour en tout cas que les opinions mondiales, si on a un peu d'audience, sachent à qui ils ont affaire.
Ce jour-là, il vous a paru sincère ou il jouait son histoire officielle à lui ?
Les deux, il y a sa sincérité, le fait de répéter sans arrêt, j'avais 22 ans, qu'est-ce que...
C'était pas ma guerre.
C'était pas ma guerre, mais j'étais obligé, c'était ça, ou être exécuté, on en a connu d'autres. Mais il reconnaissait par là même qu'il n'était pas le plus courageux des Autrichiens.
Des découvertes, il y en aura plein de découvertes. Et puis il y a des témoignages, des moments où la découverte est celle de l'intimité d'un monstre sacré. Des moments de radio qui se vivent, j'allais dire, presque de façon sensuelle, où on a l'impression d'être derrière une glace sans teint et pourtant de ne jamais être impudique, comme lorsque Paloma Picasso, dans Découverte, évoque son père.
Il y a une toile qui s'appelle, je crois, le buffet de Vauvenargues. Et donc, c'était peint à Vauvenargues. Et il y a un grand buffet. Il y a notre chien, le dalmatien, qui s'appelait Perro, ce qui veut dire chien en espagnol. Et il y a mon portrait. Et moi, je suis là avec une frange, comme ça. Et je me souviens très bien, parce que j'habitais dans la chambre qui était à côté de l'atelier. Et d'ailleurs, une nuit, j'étais somnambule apparemment à l'époque, et une nuit, je m'étais réveillée au milieu de la nuit, debout dans une pièce, et je ne savais absolument pas où j'étais, je ne me souvenais d'ailleurs même plus que j'étais à Vauvenargues. Et en tâtonnant, j'étais plus ou moins tombée sur les tableaux, j'en avais pas trouvé, heureusement. Enfin, j'avais finalement trouvé la lumière et j'avais découvert que j'étais dans cette pièce.
Mais vous n'avez pas posé pour votre père, il vous a peint comme ça?
Non, il, au fond, il avait une idée synthétique de qui j'étais, et donc il pouvait le reproduire sans ma présence.
Ouais. Et il le faisait beaucoup avec ses enfants?
Pour nous, il a quelquefois, par exemple, il faisait, quand on était tout petit, il faisait des dessins pour qu'on les colorie, par exemple. Alors ça, pour vu de l'extérieur, ça paraît extravagant, mais enfin, c'était comme ça.
Ouais. Alors, on évoque à propos de votre père Picasso l'extraordinaire goût du désordre qu'il avait. Alors, on dit que les ateliers, c'était vraiment un fouillis, un chaos.
C'était un désordre vu de l'extérieur, mais lui, pour lui, c'était très, très, très organisé. On avait d'ailleurs le droit absolument de toucher à rien. Parce que
même pas essayer de mettre de l'ordre dans
ces ateliers. les pauvres femmes qui étaient supposées faire le nettoyage avaient des ordres absolument stricts de n'absolument rien toucher, ni vider les cendriers. Enfin, il n'y a pas question de toucher absolument à quoi que ce soit. Et c'est vrai que lui-même, s'il cherchait un papier qu'il avait laissé là 20 ans plus tôt, il allait le trouver parce qu'il savait exactement où ça se trouvait.
Ouais.
Et vu de l'extérieur, enfin, c'était effectivement un capharnaüm. Et ce qui était fantastique, c'est quand, par exemple, il y avait des grandes expositions qui se passaient dans un bout du monde ou un autre, et qu'il fallait donc qu'il retrouve certaines des œuvres vraiment importantes pour les envoyer dans ces pays-là. Il y avait tout d'un coup des œuvres qui surgissaient absolument fabuleuses, qui d'habitude étaient empilées juste les unes sur les autres. Et c'était très beau de voir les espèces de mouvements de vagues qu'il pouvait y avoir dans ce désordre.
Et il paraît que les experts autour de Maître Reims, par exemple, ont retrouvé des œuvres de Picasso dans les recoins les plus inattendus, les plus saugrenus.
Oui, mais c'était comme ça. Parce qu'au fond, mais c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'on n'a pas été élevé donc, dans le culte de l'œuvre. On a été élevé dans le respect de l'œuvre, mais pas dans le culte de l'œuvre. L'art se mélangeait vraiment à la vie. Je veux dire, c'est une chose complètement naturelle de passer d'être en train de déjeuner à ce qu'ils se mettent à faire une gravure, tout ça sur la même table. Je veux dire, tout ça était vraiment complètement une seule et même chose.
Et alors, c'est vrai que Picasso, d'après ce que je lis, tripotait toujours quelque chose. Il avait toujours quelque chose dans les mains. Il était en train de ou fabriquer des objets ou de les transformer.
Oui, mais pas comme une chose nerveuse, pas comme une chose nerveuse. Oui.
mais par goût du jeu et de la création.
Oui. Aussi, une autre chose qu'il faisait toujours, c'était que tous les matins, évidemment, il recevait énormément de courriers, et entre autres, il recevait des paquets. Et les paquets étaient donc fermés avec des petites ficelles. Et jamais de sa vie, il n'a coupé une ficelle. Il défaisait les nœuds pendant des heures, parce que souvent, je veux dire, c'est des petites ficelles qui sont très difficiles à faire, que ce soit une boîte de bonbons ou que ce soit un paquet, un gros paquet, il défaisait les nœuds lui-même pendant des heures, et ensuite, il gardait les ficelles comme ça, qu'il déposait dans la maison, dans des endroits précis, en fait.
C'est une véritable photographie que la fille de Picasso nous propose de son père. C'est extraordinaire le pouvoir d'évocation de la radio.
Oui, et la radio continue. Quelles que soient les évolutions des télés, des technologies nouvelles, le contenu qui frappe l'imaginaire, qui s'adresse à chacun en particulier, reste le même. C'est vrai pour Paloma Picasso, c'est vrai aussi pour Marina Picasso, qui était la petite fille de Picasso. Son père a beaucoup souffert de la dureté avec laquelle Pablo Picasso les traitait. Son frère, le frère de Marina, est mort en buvant ou après avoir bu de la Javel par désespoir. Bon, et elle fait beaucoup pour les petits-enfants du Vietnam. Elle a contribué à construire et à faire vivre un village. Mais parmi les, il y en a eu tellement de femmes de Picasso qui l'ont inspiré. Il y avait Françoise Gillot. Et moi, j'ai une profonde tendresse pour Dora Maar. Dora Maar. Pas seulement parce que Nicole Avril a écrit un livre très intéressant, moi, Dora Maar, et qui raconte 10 années de passion entre 1936 et 1944-45. D'abord, l'amour formidable des deux, la passion. Elle était photographe, lui peintre. Elle lui a inspiré Guernica. Elle a même participé, avec l'accord et les encouragements de Picasso, à quelques touches sur le tableau de Guernica. Et puis, quand il vivait rue des Augustins, il n'y avait pas de place pour mettre même ce tableau de Guernica. Et ce que m'a appris Nicole Avril à travers ses recherches, c'est que dans les tableaux de Picasso apparaissait souvent le visage, et la forme, la silhouette de la prochaine femme qu'il allait aimer, la silhouette des amours à venir apparaissait dans une des toiles. Il ne l'avait pas encore rencontrée, et quand il allait la rencontrer, elle ressemblerait au tableau. Voilà, ça c'était Dora Maar, c'était Picasso, mais j'en ai vu tellement d'autres, à la fois pour la télévision ou pour Europe 1, Sadat, Boris Eltsine, Gorbatchev, Bill Clinton, Hillary Clinton, qui sont venus ici, ou que je suis allé voir dans un hôtel tout près de Paris, Monica Lewinsky, qui est venue à Europe 1,
ça je m'en souviens, oui.
Henri Kissinger, il n'y a pas longtemps Ariel Sharon, Bouteflika, Hassan II, et puis une femme qui m'a marqué, pour laquelle j'ai une tendresse et à laquelle je pense régulièrement, qui est l'actrice américaine Audrey Byrne, qui a à la fois mon admiration, parce que on était gamin quand on a vu les Vacances romaines, ou on a revu les Vacances romaines avec Gregory Peck, mais parce que je l'ai interrogée, je pense que ça a été là aussi son dernière interview, c'est pour l'émission de télé. Elle avait été, je suis assez bouleversée chaque fois que j'en parle. Elle avait fait une émission, elle rentrait d'Afrique où elle avait aidé les jeunes. Et puis, on s'était très très bien entendu, beaucoup vu, beaucoup écrit. Et puis, quelque temps, elle a été frappée par la maladie qui l'a tuée. Quoi.
On se retrouve dans quelques instants avec les Enfants d'Europe.
Les Enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Il y a les moments d'intimité d'un monstre sacré, on vient de l'entendre. Il y a les moments de vérité de l'homme de foi, quand par exemple, Jean-Pierre, vous interpellez Monseigneur Lustiger sur les rapports pervertis entre la foi, l'intégrisme et le terrorisme.
Je n'appelle pas foi une conviction aveugle. Parce que dans ce cas, on pourrait dire que les jeunes SS étaient aussi remplis de foi. Je n'appelle pas foi le fanatisme. J'appelle foi l'acte par lequel un homme raisonnable et libre adhère à Dieu. C'est pas une conviction, la foi. Parce qu'il y a un homme qui adhère à Dieu adhérera en même temps à un certain contenu, c'est-à-dire un contenu de respect, de liberté, d'amour et de pardon. Quelle que soit la manière dont il connaît Dieu. Alors tout peut être perverti, y compris la foi, y compris la conviction. Mais encore une fois, je répète, un fanatique n'est pas forcément un homme de foi, et un homme de foi n'est sûrement pas un fanatique.
Vous m'avez invité à vous poser toutes les questions de la manière la plus franche et la plus sincère. Il y en a qui sont posées sur ce thème. Vous êtes devenu chrétien à l'âge de 14 ans. Que reste-t-il en vous, du juif, dans votre manière de penser, d'agir, de parler ?
Il faudrait pour ça que mon interlocuteur sache que c'est qu'un juif. Et s'il peut me répondre à cette question, c'est probablement qu'il ne l'est pas.
Mais vous attendez sa réponse pour le savoir ?
Comment ? Si je le savais vraiment, je ne le serais pas.
Mais quel sens a finalement la présence de Aaron Jean-Marie Lustiger à la tête de l'Église à Paris ? Qui a été fermement voulu par le pape Jean-Paul II.
Ça, probablement, le saurais-je quand je me retrouverai face à face avec Monseigneur et Maître, parce que je vois bien que ça a un sens réel, caché à mes propres yeux, mais que ce n'est pas sans signification, à la fois pour le destin de l'Église, pour le destin du christianisme, et peut-être aussi pour le destin du judaïsme, et pour le destin de notre temps.
C'est vrai que pour beaucoup, c'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est plus difficile à vivre ? Où cela a été ?
Moi, ça n'est pas difficile à vivre intérieurement. Ce qui est plus difficile, c'est de porter les contradictions extérieures, les contradictions des autres. Pour moi, intérieurement, j'ai en moi les souffrances innombrables et immémoriales de la condition juive et aussi de la condition humaine. Car être disciple du Christ, être disciple du Messie et avoir devant soi la figure du crucifié, c'est être capable de comprendre dans une certaine profondeur le destin de l'homme. Mais ça, après tout, c'est ma voix et c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Maintenant, les réactions des gens, ça ne me plaît pas beaucoup d'être l'objet, le point de mire de un certain nombre de questions.
Oui. Mais vous avez accepté qu'elles soient posées. Est-ce que ça veut dire que devenir chrétien, c'est l'avenir du juif dans certains cas ? Est-ce que c'est une étape ? Est-ce que l'avenir pour le juif, c'est de disparaître en tant que tel ?
Non, certainement pas. Certainement pas, parce que cela est dit dans l'Écriture. C'est-à-dire que le fait d'être juif est une vocation. Et quand j'ai dit une formule tout à fait paradoxale, qui n'a pas été comprise par un certain nombre de gens, mais comprise par beaucoup cependant, à savoir que je ne cessais pas d'être ce que j'avais été en devenant chrétien. Je ne cessais pas d'être moi-même. et d'être ce que mes parents m'ont fait. Cette formule est peut-être difficile à comprendre, mais elle a un sens.
Une dernière question sur ce thème, elle est peut-être un peu délicate, je ne sais pas, mais vous me permettez peut-être de la poser. Est-ce qu'il n'y a pas une suspicion, ou dans la hiérarchie, ou parmi certains croyants, à cause de l'origine de la religion, à l'égard de Mgr Lustiger ?
Écoutez, je n'en sais rien, et si cela est, ça m'est égal. Parce que cela juge, précisément, cela juge... Enfin, si je suis là et à cette place, c'est peut-être pour mettre cela en évidence, pour que cela soit mis en évidence. Peut-être fallait-il que je sois là pour que cela soit mis au jour. Peut-être est-ce possible. En tout cas, quand j'ai accepté, quand j'ai répondu oui à ce que m'a demandé le pape, je savais bien que je courais ce risque-là et beaucoup d'autres.
C'est donc une marge de courage, une marque de courage de l'avoir accepté.
Non, c'est ou une marque de courage, je n'en sais rien.
Ou d'obéissance à Dieu.
D'obéissance à Dieu, oui, je préfère.
Ça veut dire qu'aucune charge, même les plus hautes de l'Église, n'est interdite à quelqu'un qui a votre origine. Même la plus haute.
Bah, la plus haute, vous savez, c'est celle du Christ. C'est un juif.
Il y a une question que vous ne poseriez pas.
Je ne crois pas. Quand je réentends la franchise brutale des conversations avec le cardinal Lustiger, je me dis non, mais tout est dans la manière de poser les questions et en fonction de l'interlocuteur avec lequel on se trouve. Le cardinal Lustiger, c'est une de mes admirations. Je l'ai connu dès le premier jour de sa nomination comme archevêque de Paris. C'est même dans mon bureau de, à l'époque, France 2, qu'il avait rédigé, ça s'appelait Antenne 2, oui, qu'il avait rédigé sa première déclaration d'archevêque de Paris. Chaque fois que j'ai connu des épreuves, et même d'une manière plus régulière, plus discrète, je vais le voir, je lui parle et je l'écoute. Vous savez, Albert Camus disait que il préférait découvrir et admirer. À ma modeste place, toute ma vie, j'ai pensé qu'on se grandit plus à aimer, à admirer, qu'à critiquer et à haïr. C'est ce que j'ai fait avec le cardinal Lustiger.
Préfère interviewer les religieux, les artistes, les politiques. Il y a une différence, il y a une manière différente.
Non, ce sont des hommes et des femmes. Et il faut les prendre pour cela. Alors, de temps en temps, naturellement, nous sommes dans des jeux de rôle. Cherchent à nous séduire, à nous embarquer dans leur vérité même du moment, et même s'ils n'y croient pas trop. Et nous, nous sommes placés pour essayer, au nom, comme médiateur du public, de les amener à être au plus près de leur propre vérité. Et quelquefois, nous nous affrontons. Il n'y a jamais d'agressivité. Il ne doit pas y avoir d'agressivité, ce qui serait un procédé. Mais il y a une recherche de l'autre dans sa vérité ou dans ses vérités. Et quel qu'il soit, et c'est vrai que j'ai une vision plus globale de l'actualité qu'on ne le pense. Je ne me limite pas aux politiques. C'est une caricature ou une réduction que de m'enfermer dans cela. Mes souvenirs vont plutôt vers ou les lectures ou les gens que j'ai rencontrés ou que j'ai vus de près ou de loin.
Oui, oui. Mais je sais à quel point vous aimez, par exemple, l'art, avec une place particulière pour la musique de Mozart.
Ah, Mozart.
Voilà, à Mozart.
Mozart.
Et à l'époque, Miloš Forman vient de sortir Amadeus. Il en parle dans Découverte.
On n'a pas fait une biographie. Hein. Si c'était biographie, ça, sûrement je n'étais pas intéressé. Non, c'est une histoire dramatique à soi-même. Et parce que c'est Mozart et Salieri, alors c'est Mozart et Salieri.
Mmh. Salieri, un compositeur d'origine italienne qui est à la cour de l'empereur Joseph II, qui est le compositeur attitré, et qui découvre un des premiers le génie de Mozart.
C'était une jalousie grandiose, parce que
Louis métaphysique.
Il a cru que talent ou génie vient de Dieu. Et parce que Dieu aussi représente l'arbitre le plus juste au univers, alors il a souffert en justice intolérable, parce que lui, il a fait tous pour mériter le cadeau de Dieu, Salieri. Mozart n'a fait rien, absolument rien de le mériter. Mais le Dieu a décidé de donner ce cadeau à Mozart et pas à Salieri.
Et Salieri, d'ailleurs, va blasphémer Dieu et va perdre sa croyance en Dieu.
Parce qu'il accuse Dieu aussi de le donner le désir et pas le talent de le remplir son désir.
Mais vous vous rendez compte que dans votre film, malgré tout, vous en faites un personnage qui est méchant, mais qui est sympathique.
Parce qu'il n'était pas né méchant, il n'était pas... C'était vraiment une jalousie que je comprends. Et ce n'est pas une petite jalousie, c'est une jalousie que je respecte énormément, parce que c'est la jalousie de beauté.
Milos Forman, il y a l'œuvre incomparable et d'une très grande beauté, d'une richesse qu'on n'arrêtera pas de commenter, de Mozart. Pour vous et pour le film Amédéus et le portrait que vous en faites, une différence entre la vulgarité hein, du physique, le cynisme du physique, et en même temps l'élégance, le raffinement, la qualité prodigieuse de l'inspiration.
Il avait des côtés tellement infantiles, naïfs, même stupides, si vous voulez. Aussi les côtés très arrogants, très vulgaires, beaucoup de vanité. Mais de l'autre côté, il était aussi très intelligent. Il a parlé 5 langues, il était très bon en mathématiques. Il était aussi très charmant, très vite, bon sens d'humour. Et il a écrit toute sa musique divine. Alors, vous pouvez imaginer les contradictions tellement extrêmes dans un petit corps qui n'était pas très beau. Hein. Mozart était très court, il avait pas 1m60. Quand vous voyez les portraits de Mozart, ils sont tous très différents. C'est presque comme si ce n'était pas le même homme.
Il y avait son rire. Ou vous l'avez inventé, le rire?
On sait qu'il avait un rire étrange. C'est historique. Dans un mémoire de quelqu'un, quelqu'un a écrit que c'était choquant d'entendre de la bouche de quelqu'un qui a écrit cette musique divine un rire tellement idiote.
Oui, oui. Et en plus, vous le montrez bien, Milos Forman, Amédéus, Mozart, ou Wolfi, comme l'appelait Constance, écrivait sa musique sans rature.
Et je crois qu'il a travaillé beaucoup, beaucoup. Mais on n'a pas vu ça parce qu'il a pu travailler même en jouant au billard. Il a adoré jouer au billard. Oui. Alors finalement, quand on s'assoit au papier, il a seulement écrit ce qui était déjà composé dans sa tête.
Quand vous avez fait votre film, et le rôle et la place de la musique sont extrêmement grands, vous avez pensé le faire pour des gens qui connaissent rien à la musique?
Moi, je ne connaissais pas beaucoup la musique de Mozart. Alors, j'ai voulu utiliser la musique d'une façon que moi, que je peux comprendre. Alors, n'importe qui avait mon connaissance de la musique assez médiocre pouvait le comprendre. En écoutant 1000 fois les mêmes morceaux de musique de nouveau, je trouvais, à mon astonishment, que je l'adore plus en plus.
La musique sans rature, Jean-Pierre, c'est ça qui vous ferait préférer Mozart
la
à
musique,
tout autre?
Oui, oui, la musique avec ou sans rature de Mozart. J'ai découvert tard cette musique et à travers les opéras. Et je suis reconnaissant à celui ou à celle qui m'a fait découvrir les opéras et tous les opéras. Et jusqu'au Don Giovanni exceptionnel, j'ai dû le voir 20 fois avec une préférence pour celui de Lozé avec Ruggiero Raimondi et Kirite Kanawa comme Donna Elvire.
Donc forcément, Milos Forman, vous l'enviez d'avoir fait un film sur
Oui, moi il m'est arrivé pour un gag d'interroger Mozart, je lui avais posé des questions, il avait répondu en musique, c'est un de mes beaux souvenirs ça. Et vous savez, Milos Forman, c'est un immense cinéaste, il est en train de monter un film sur Goya, et je pense que ça va être aussi phénoménalement beau.
On se retrouve pour la fin de cette émission après une dernière pause.
Et tout de suite, on retrouve Marc Tronchot.
Retour dans le studio des Enfants d'Europe 1 pour cette émission spéciale découverte avec, comme invité, Jean-Pierre Elkabbach, un des plus grands faits divers de ces dernières années. Il se passe dans les Vosges. C'est l'affaire Grégory, elle en est en son épilogue. Jean-Marie Vimain est en prison, Chrissy Vimain chez ses beaux-parents, là où, en exclusivité, Jean-Pierre vous l'a rencontré.
Je me sens cloîtrée, oui. Je n'ose pas sortir. Bon, ben, si je sors, il y a toujours un ou deux journalistes qui me suivent, qui me prennent en photo à ce que je fais, sans arrêt, hein.
Et vous n'avez jamais été accepté, non, par la famille?
Les beaux-parents, si, ça a été, mais c'est plutôt un de ses frères, quoi. Il n'a jamais trop accepté, aussi bien à moi que les autres belles-sœurs. Hein, il n'a jamais trop accepté.
Et Jean-Marie, il a toujours été de votre côté?
Parce que, de toute façon, on ne nous a jamais trop... que ce soit ses oncles, ses tantes, cousins, une fois qu'il a passé échelon surveillant, on nous a mis de côté. Ils n'ont pas jamais accepté ça, ça a toujours été jalousie. Donc je pense que là, il y en a beaucoup qui doivent penser contre moi.
On pensait que l'ambition de Jean-Marie, c'était l'ambition de Christine.
Il vaut mieux avoir un mari surveillant qu'un mari qui balaye les trottoirs. Hein.
Mais quand vous étiez toute jeune, vous avez été orpheline de père assez vite.
Oui.
Est-ce que vous vous disiez, j'essaierai de m'en sortir, de ne pas vivre comme ceux d'ici?
Non, parce que quand j'étais petite, ce que je voyais, je voulais être sœur pour aller dans les pays étrangers soigner les petits noirs. Alors, et ça jusque bien loin. Hein. Ma mère, elle a toujours dit, on en fera une sœur. Alors, je ne voyais pas vraiment le grand succès. Hein.
J'ai regardé, là, rapidement, je n'ai pas visité en détail, je ne suis pas aussi indiscret que ça. Je n'ai pas trouvé de journal, je n'ai pas trouvé de livre. Vous ne lisez pas les livres?
Les livres aussi, c'est dans ma chambre, c'est des Harlequins, que je précise, ce n'est pas des séries noires. Et les journaux, je n'en achète plus depuis que Jean-Marie est incarcéré.
Donc, c'est des romans qui se terminent toujours bien, des histoires d'amour.
Voilà. Je lis beaucoup le soir avant de m'endormir, parce que je n'arrive pas à m'endormir. Alors.
Votre principale sortie, maintenant, qu'est-ce que c'est?
La prison. Je vais à Saverne 3 fois par semaine.
On raconte qu'il soigne d'une certaine façon des angoisses avec des tranquillisants, qu'il a même tenté peut-être même de faire une bêtise. Est-ce que vous croyez que c'est possible qu'il fasse une bêtise dans l'état où il est?
Non. Au début, quand il a été à la prison de Nancy, il prenait des cachets pour dormir. Depuis qu'il est à Saverne, ça va mieux, il n'en prend plus. Et il n'a jamais tenté de se suicider. Hein.
Et le doute?
Le doute envers moi?
Oui. Ça ne gagne pas?
Non, pas du tout. Les journaux, ils pourront marquer ce qu'ils veulent. Jamais il aura le doute. Hein. De toute façon, on n'a jamais douté l'un de l'autre. Hein.
Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui doutent encore? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'attendent au pire? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, comme dans l'autre sens, Maître Garot et d'autres, le comité de soutien, vous croient innocentes et victimes d'une pression qui est assez intolérable? Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis que je suis innocente, que je n'ai pas tué mon enfant, que Grégory était tout pour moi et que je ne vois pas ce que ça m'aurait rapporté d'aller le mettre à la Vologne. Je suis innocente.
Bon, depuis tout à l'heure, avec Laurence Lacour, on vous voit, on est en face l'un de l'autre, avec Sine Bitoun, on discute avec vous. Vous passez par des hauts et des bas. Hein, et à la fois, vous souriez, d'autres fois, vous êtes au bord des larmes. En même temps, il y a des colères que l'on sent en vous. Alors que l'image que vous avez, c'est encore une fois l'indifférence, la froideur, la calculatrice aussi.
Quand on me voit, c'est dans la rue. Alors, je ne vais pas montrer mes sentiments dans la rue. Quand j'ai de la peine, que je pleure, je préfère être toute seule chez moi que de me faire prendre en photo. La peine, c'est pas parce qu'ils me verront en pleurs que les gens changeront d'opinion. Hein. Et quand je suis en colère, pareil, j'ai mon temps resté indifférente. Et puis...
Qu'est-ce qui est le plus fort en vous aujourd'hui, l'espoir ou la peur?
Non, l'espoir. Ce que j'espère, c'est qu'on trouve vraiment l'assassin de Grégory ou alors qu'on confirme le geste que Jean-Marie l'a fait, qu'il était dans le bon chemin.
Quelle que soit la vérité, Christine Villemain, vous la voulez, vous?
Bah oui, je la veux. Oui. Hein? Parce que surtout maintenant que Jean-Marie est en prison, je ne veux pas qu'il soit jugé sur le doute.
Christine Villemain qui ne s'exprimera qu'une seule fois, et ce sera avec vous, Jean-Pierre. Quel souvenir de cette rencontre? J'ai vu que ça doit être un moment assez particulier.
Oui.
Je ne sais pas si on arrive avec
une... Oui, bouleversant. Avant d'arriver à la conversation, il y a eu de nombreuses... conversation téléphonique, puis plusieurs heures passées avec elle, d'abord à marcher longuement, longtemps, pour essayer de la comprendre. Vous savez, on l'accusait du pire crime qui soit,
l'infanticide.
Et puis, je pense aussi que c'était une injustice. Le traitement qui lui était réservé était une flagrante injustice. C'est peut-être un des exemples les plus sinistres des travers des médias. C'est pas rare, le manque de rigueur, le manque de doute, le manque de sérieux, ça arrive. Et ce sont des leçons que je retiens. C'est Laurence Lacour, une excellente journaliste qui avait fait à l'époque des enquêtes pour Europe 1 et qui m'avait bien expliqué comment le même couple faisait des papiers avec des signatures différentes dans 8 journaux différents. Et tous les matins, je me souviens quand on arrivait... Couple de journalistes. Quand on arrivait à Europe 1, on disait mais un tel de tel journal a dit ceci, l'autre a dit cela, donc ils disent à peu près la même chose. C'est donc qu'elle est déjà coupable. La présomption d'innocence ne jouait pas. Et c'était le même couple. Peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des exagérations. D'ailleurs, on verra peut-être un peu de cela bientôt sur France 3, puisqu'il y a une fiction qui va être consacrée à l'affaire Villemain.
C'est pour septembre-octobre, je crois. Autre exclusivité, l'affaire von Bülow, un aristocrate allemand, pour ceux qui s'en souviennent, installé aux États-Unis, accusé d'avoir empoisonné sa femme. Son procès vient devant la justice américaine.
Oui, il faut dire que sa femme était archi milliardaire.
et vous allez réaliser son interview « Souvenir de Béatrice Schoenberg » à nouveau.
C'était en 85, c'était le feuilleton quotidien de l'Amérique. Parce que aux États-Unis, les caméras entrent dans le prétoire. Il y a eu deux procès successifs de Klaus von Bülow. Mmh. Et on voyait tous les jours à la télé, il y avait des comptes rendus de le procès en direct. Alors, est-ce que cet aristocrate a tué sa femme ? Elle s'appelait Sonny, si j'ai bon souvenir. Ouais. Est-ce qu'il l'a aidée à mourir ? Il y avait cette piqûre à l'insuline, est-ce que c'est lui qui lui avait faite ?
Forte dose.
Est-ce que c'est elle qui avait faite ? Très forte dose. Elle était richissime, sublime, milliardaire. Et lui était un aristocrate un peu cassant. Alors voilà, ça c'était le feuilleton qui passionnait l'Amérique. Et nous, comme pour nous, rien n'était impossible, on avait décidé que, eh bien, on allait l'interviewer. D'autant que von Bülow, comme c'était un aristocrate d'origine allemande, parlait parfaitement le français, puisque c'était l'époque où on apprenait plusieurs langues, et le français faisait partie évidemment des langues qu'on apprenait en Allemagne. Donc on s'est dit, bon voilà, celui-là on le veut. Et à partir de ce moment-là, avec une chance incroyable, on ne pouvait pas passer directement par lui, et donc je suis passée par sa compagne. La compagne de l'époque s'appelait Andrea, c'était aussi une femme qui parlait français. Et en remontant petit à petit vers elle, on a réussi à décrocher l'interview. Je crois que personne ne l'avait fait, en tout cas en France. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais en France, personne.
Pied de nez à la presse américaine.
Ah ouais, énorme pied de nez. Et nous voilà dans l'appartement Park Avenue à New York, avec von Bülow qui était face à nous, dans un appartement absolument sublime, avec une dizaine de fenêtres qui donnaient sur le parc. Et ça a été notre scoop, autant dire qu'on n'était pas peu fiers. D'autant qu'après, il y a eu le film qui a fait Barbara Schroeder avec Jeremy Irons.
Ouais, début des années 90. Oui.
Voilà, qui a suivi et qui a passionné aussi la France, du coup.
Oui, et impressionnant, Klaus von Bülow.
Très snob. Très snob. Je me souviens de réflexions sur le personnel. Puisque, en fait, toute l'histoire du procès tenait au fait qu'il y avait une femme de chambre personnelle de Sonny, sa femme, qui l'accusait lui. Et je me souviens que lors de l'interview, Jean-Pierre lui posait une question sur cette femme. Et il avait dit, mais j'aurais dû m'en débarrasser avant. Quelque chose comme ça, en disant, on ne peut jamais faire confiance au personnel. Oui, un peu cynique, apparemment.
Ouais. Klaus von Bülow parlait français.
Très bien.
Mais Jean-Pierre est germaniste.
Oui, je crois qu'il a été correspondant en Allemagne.
Absolument. Oui. Donc ça devait aussi,
probablement,
d'une certaine manière,
probablement.
Oui. Ça a été un bon souvenir.
C'est un souvenir en tout cas, parce que vous savez que le journalisme et la passion du journaliste, c'est d'être avant les autres. Et quand il y a une interview de qualité, Jean-Pierre avait fait une excellente interview, c'était un vrai scoop. C'était pas une petite exclusivité, c'était un vrai scoop. Donc c'était un moment d'émotion. En plus, ça nous avait permis d'aller à New York. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait l'occasion de bouger, on bougeait.
Précisément, un extrait de cette interview. Klaus von Bülow est en face de vous, Jean-Pierre. Nous sommes en 85 aux États-Unis.
Ma femme a pris... Maintenant, elle a pris 65 aspirines d'un coup. Il ne s'agit pas d'erreur, n'est-ce pas ? Deux des plus grands experts dans la pathologie légale, qui sont reconnus partout au monde, ont dit que c'était au moins ce qu'ils appellent un cri au secours émotionnel. Vous savez, les suicides n'ont pas toujours envie d'aller jusqu'au bout, mais ils ont envie d'affler la sympathie.
Est-ce que vous pensez que vous allez la voir à l'hôpital ?
Je n'ai pas pu la voir ces derniers 3 ans parce que mes beaux-enfants ont raconté à tout le monde que j'allais peut-être la tuer à l'hôpital, qu'ils avaient des photos de moi avec une seringue en train de injecter Sonny à l'hôpital.
Mais vous direz ?
Oui. Vous savez, je vais dire une chose qui peut vous paraître hypocrite, mais quand on est innocent, on ne sait pas comment se défendre parce qu'on ne connaît pas la vérité.
Quand on est innocent, on ne sait pas comment se défendre. C'est l'impression qui vous a donné,
oui,
celle de quelqu'un qui ne savait pas se défendre.
Béatrice Schoenberg disait tout à l'heure, on allait avec l'équipe de découverte. On était 3. Elle, un technicien et moi. La voix de Klaus von Bülow, la voix déjà donne des frissons. Et puis sa distance. Les êtres les plus cruels sont ceux qui paraissent souvent les plus simples, les plus gentils, les plus banals. Et là, il y a une image qui me revient, la terrible Madame Mao Tse-tung. C'est loin, ça. Hein? Mmh. Madame Mao Tse-tung, qui avait participé au déclenchement de la révolution culturelle, qui a fait des millions et des millions de morts. Elle a voulu, avec ce qu'on a appelé la bande des quatre, prendre le pouvoir des mains de son mari épuisé et moribond. Eh bien, Madame Mao Tse-tung, tout de suite après la révolution culturelle et avant le déclenchement d'autres opérations contre tout le, une grande partie de son pays et de sa jeunesse, elle accueillait le président Georges Pompidou à Pékin. Et elle était à l'opéra de Pékin. Et je ne la quittais pas des yeux. Et pendant tout le spectacle de l'opéra de Pékin, elle sortait sans arrêt de son sac à main, qui était un sac à main acheté visiblement à Paris, son poudrier, et elle se remaquillait. Cruelle, mais coquette.
Cette émission touche à sa fin. On va se séparer sur un morceau de poésie. Je vous l'avais promis, intégré à l'émission que vous aviez consacrée à Raymond Devos. Et puis parce que je pense qu'il occupe une place de choix dans vos rencontres avec des hommes remarquables. L'extrait, c'est au moment où Jean-Pierre vous lui demandait pourquoi il n'a jamais parlé, par exemple, de sexe dans ses sketchs.
Et il y a deux thèmes qui sont les absents de vos sketchs. Le sexe et la politique. Est-ce que c'est de la prudence? Est-ce que c'est de la pudeur?
Le sexe, c'est sûrement de la pudeur. Parce que, pardonnez-moi, il y a un texte qui s'appelle les objets inanimés.
Le peigne.
Qui est
d'une rare sensualité, bon, d'un grand érotisme.
Bon,
c'est
voilà.
Vrai.
Mais sans qu'on s'en le dire. C'est ça, la pudeur. Parce qu'il n'est pas défendu de parler de ces choses-là. Mais il faut en parler avec respect. Parce que c'est notre faiblesse. Parce que le sexe, c'est, nous sommes des animaux. Bon. Et nous sommes des hommes intelligents. Nous avons cette dualité-là qui est fabuleuse, qui fait notre aventure et notre phénomène. Donc c'est tout ça, cette histoire-là, qu'il faut raconter. Mais dès qu'on touche à cette histoire d'animalité, du respect, parce que c'est difficile, parce que nous-mêmes on se cache, parce qu'on s'habille. Alors il faut pas dévoiler tout ça. Il faut qu'on garde notre mystère d'animal.
Mais là, c'est De Vos qui parle de sa propre pudeur.
Mais c'est l'accepter. La pudeur de tout le monde.
Il faut l'accepter.
Mais c'est la pudeur de tout le monde. Et quand les autres se mêlent, ils le savent. Ils sont honteux. Les gens qui se permettent de tout dévoiler, ce sont des gens qui n'ont rien compris à notre aventure. Ce sont des gens qui croient qu'on a besoin de ça. Et ils abîment l'esprit. Ils abîment l'esprit parce qu'ils touchent à l'esprit. Il ne faut pas toucher à l'esprit. Il faut laisser à l'esprit sa chance. Le propre de la sensualité, puisqu'on en parle, et moi j'y crois beaucoup, mais je ne suis pas contre l'érotisme. Mais il faut savoir ce que c'est que l'érotisme. C'est la petite chose dévoilée tout doucement, petite. Oui, et oui. Sans ça, alors, faut pas faire de l'érotisme.
Vive la belle histoire du peigne.
Figurez-vous qu'une nuit, comme ça, je dormais pas, là. J'attendais un coup de fil de l'objet de mes désirs qui refusait obstinément de devenir ma chose. Et tout d'un coup, j'entends des bruits curieux. C'était les pieds de la table qui craquaient. Entre parenthèses, c'est une table qui m'avait été offerte par l'objet de mes désirs, celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. C'est pour vous dire qu'il y a une relation entre la chose et l'objet. Bref, les pieds de cette table craquaient. J'avais beau me dire que c'était le bois qui travaillait, tout de même, à 2h du matin, c'est pas une heure pour travailler le bois. Et la question s'est posée à mon esprit fulgurante. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Et je me suis dit que pour répondre honnêtement à la question « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?», le seul moyen était de devenir objet moi-même. Avec le dédoublement, c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un peigne. Pourquoi un peigne? Parce que c'est la première chose qui me soit passée par la tête. Pourquoi un peigne? D'aller présenter mes hommages à celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. Elle me dit, excusez-moi, je suis tout ébouriffé. Elle ouvre son sac. Elle dit, tiens, j'ai perdu mon peigne. Vous voyez la relation objet-objet, là. Alors je lui passe le mien. Et tandis qu'elle se coiffait, j'ai éprouvé une sensation curieuse. C'est comme si je lui passais la main dans les cheveux. Et elle me dit, il y a chez vous quelque chose qui m'échappe. Et dans le même temps, le peigne est tombé. J'ai simplement ressenti une vibration dans les dents, parce que chez le peigne, ce sont toujours les dents qui prennent. Vous voyez la relation homme-objet, là, hein? Alors j'ai ramassé mon peigne, je l'ai glissé dans son sac et je suis rentré chez moi. Quelle nuit j'ai passé en tant que peigne au fond de ce sac de femme! Ah, mesdames, l'intérieur de votre sac, quel fouillis! Charmant au demeurant. Messieurs, l'intérieur d'un sac de femme,
Les parois de satin rose, le petit mouchoir de dentelle teintée de rouge à lèvres, le fume-cigarette en or, le cliquetis des clés, la brosse en soie bleue, les parfums, les arômes. J'ai vécu au fond de ce sac de femme les heures les plus éblouissantes de mon existence. Bref. Le lendemain, on sonne, c'était l'objet de mes désirs, qui me dit, je viens vous rapporter le peigne que vous avez oublié dans mon sac. Elle l'ouvre. Souvenir. J'ai dit que non, gardez-moi encore près de vous. J'étais si bien à l'intérieur de votre sac. Elle me dit, que faisiez-vous à l'intérieur de mon sac? J'ai dit, j'attendais de votre part un coup de peigne qui n'est pas venu. Elle me dit, vous vous portez bien, vous, en ce moment? J'ai dit, oui, je me porte bien. J'ai dit, et vous? Elle me dit, moi, pas mal, sauf que depuis quelque temps, la nuit, j'ai les pieds qui craquent. J'ai repensé à la table. Oh, j'ai dit, c'est rien, c'est le bois qui travaille.
Voilà, on va se quitter sur Raymond Devos. C'est une belle manière de se quitter. Merci Jean-Pierre, merci à tous les enfants d'Europe 1 d'hier, d'aujourd'hui, oui, de demain. Vous en êtes un.
C'est un bel hommage. Vous savez, j'ai aimé ces voix, ces êtres. Vous avez donné la chance de réécouter. Je choisirai demain ce que je repère pour vous et que j'aime aussi. Le journaliste, c'est extraordinaire. C'est un métier de passeur et parfois, quand on a de la chance, de créateur. Il se construit chaque jour avec passion et liberté. Et la richesse et le goût des archives servent précisément, et je crois surtout, à préparer l'avenir. Alors vous me demandez l'important. Eh bien, l'important, c'est l'entretien de demain matin.
Et donc à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Les enfants d'Europe 1, c'est chaque lundi, chaque vendredi, de 10h30 à midi. Donc à très vite.
Voilà, le goût des archives, disait Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien, nous les savourerons, ces archives, et nous aurons donc en palais, vendredi à 10h30, tous ces documents étonnants que vous piochez ici dans nos réserves, mon cher Marc Tonchot.
À demain, Marc Menant.